Le Lys dans la vallée, chapitre 10. J'aimais trop passionnément pour ne pas être jaloux, et je ne pouvais lui rien donner, moi. Dans ma rage, je cherchais un moyen de mourir pour elle. Elle me demanda quelle pensée voilaient mes yeux. Je les lui dis naïvement. Elle en fut plus touchée que de tous les présents, et jeta du baume dans mon cœur, quand après m'avoir emmenée sur le perron, elle me dit à l'oreille « Aimez-moi comme m'aimait ma tante. Ne sera-ce pas me donner votre vie? Et si je la prends ainsi, n'est-ce pas pour me faire votre obligé à toute heure? » Il était temps de finir ma tapisserie, reprit-elle en rentrant dans le salon, où je lui baisai la main comme pour renouveler mes serments. Vous ne savez peut-être pas, Félix, pourquoi je me suis imposé ce long ouvrage. Les hommes trouvent dans les occupations de leur vie des ressources contre les chagrins. Le mouvement des affaires les distrait. Mais nous autres femmes, nous n'avons dans l'âme aucun point d'appui contre nos douleurs. Afin de pouvoir sourire à mes enfants et à mon mari, quand j'étais en proie à de tristes images, j'ai senti le besoin de régulariser la souffrance par un mouvement physique. J'évitais ainsi les atonies qui suivent les grandes dépenses de force, aussi bien que les éclairs de l'exaltation. L'action de lever le bras en temps égaux berçait ma pensée et communiquait à mon âme, où grondait l'orage, la paix du flux et du reflux, en réglant ainsi ses émotions. Chaque point avait la confidence de mes secrets. Comprenez-vous? Eh bien, en faisant mon dernier fauteuil, je pensais trop à vous. Oui, beaucoup trop, mon ami. Ce que vous mettez dans vos bouquets, moi, je le disais à mes desseins. Le dîner fut gai. Jacques, comme tous les enfants dont on s'occupe, me sauta au cou en voyant les fleurs que je lui avais cueillies en guise de couronne. Sa mère affecta de me bouder à cause de cette infidélité. Le cher enfant lui offrit ce bouquet jalousé. Avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous fîmes tous trois un tric-trac, moi seul contre monsieur et madame de Mortsauf, et le comte fut charmant. Enfin, à la tombée du jour, ils me reconduisirent jusqu'au chemin de Frapesle par une de ces tranquilles soirées dont les harmonies font gagner en profondeur aux sentiments ce qu'ils perdent en vivacité. Ce fut une journée unique en la vie de cette pauvre femme, un point brillant que vint souvent caresser son souvenir aux heures difficiles. En effet, les leçons d'équitation devinrent bientôt un sujet de discorde. La comtesse craignit avec raison les dures apostrophes du père pour le fils. Jacques maigrissait déjà, ses beaux yeux bleus se cernaient. Pour ne pas causer de chagrin à sa mère, il aimait mieux souffrir en silence. Je trouvai un remède à ses maux, en lui conseillant de dire à son père qu'il était fatigué, quand le comte se mettrait en colère. Mais ses palliatifs furent insuffisants. Il fallut substituer le vieux piqueur au père, qui ne se laissa pas arracher son écolier sans des tiraillements. Les criailleries et les discussions revinrent. Le comte trouva des textes à ses plaintes continuelles dans le peu de reconnaissance des femmes. Il jeta 20 fois par jour la calèche, les chevaux et les livrées au nez de sa femme. Enfin, il arriva l'un de ces événements auxquels les caractères de ce genre et les maladies de cette espèce aiment à se prendre. La dépense dépassa de moitié les prévisions à la cassine et à la rétorière, où des murs et des planchers mauvais s'écroulèrent. Un ouvrier vient maladroitement annoncer cette nouvelle à monsieur de Mortsauf, au lieu de la dire à la comtesse. Ce fut l'objet d'une querelle, commencée doucement, mais qui s'envenima par degrés, et où l'hypocondrie du comte, apaisée depuis quelques jours, demanda ses arrêages à la pauvre Henriette. Ce jour-là, j'étais partie de Frapesle à 10h30, après le déjeuner, pour venir faire à Clochegourde un bouquet avec Madeleine. L'enfant m'avait apporté sur la balustrade de la terrasse les deux vases et j'allais des jardins aux environs, courant après les fleurs d'automne, si belles mais si rares. En revenant de ma dernière course, je ne vis plus mon petit lieutenant à ceinture rose, à pèlerine dentelée, et j'entendis des cris à Clochegourde. « Le général !» me dit Madeleine en pleurs, et chez elle ce mot était un mot de haine contre son père. « Le général gronde notre mère. Allez donc la défendre !» Je volais par les escaliers et j'arrivais dans le salon sans être aperçu ni salué par le comte ni par sa femme. En entendant les cris aigus du fou, j'allais fermer toutes les portes, puis je revins. J'avais vu Henriette aussi blanche que sa robe. « Ne vous mariez jamais, Félix, » me dit le comte. « Une femme est conseillée par le diable. La plus vertueuse inventerait le mal s'il n'existait pas. Toutes sont des bêtes brutes. » J'entendis alors des raisonnements sans commencement ni fin. Se prévalant de ses négations antérieures, M. de Mortsauf répéta les niaiseries des paysans qui se refusaient aux nouvelles méthodes. Il prétendit que s'il avait dirigé Clochegourde, il serait deux fois plus riche qu'il ne l'était. En formulant ses blasphèmes violemment et injurieusement, il jurait, il sautait d'un meuble à l'autre, il les déplaçait, les cognait. Puis au milieu d'une phrase, il s'interrompait pour parler de sa moelle qui le brûlait ou de sa cervelle qui s'échappait à flots comme son argent. Sa femme le ruinait. Le malheureux, des 30 et quelques 1000 livres de rente qu'il possédait, elle lui en avait apporté déjà plus de 20. Les biens du duc et ceux de la duchesse valaient plus de 50 000 francs de rente réservés à Jacques. La comtesse souriait superbement et regardait le ciel. « Oui, s'écria-t-il, Blanche, vous êtes mon bourreau. Vous m'assassinez. Je vous pèse. Tu veux te débarrasser de moi. Tu es un monstre d'hypocrisie. Elle rit. Savez-vous pourquoi elle rit, Félix ?» Je gardai le silence et baissai la tête. « Cette femme, reprit-il en faisant la réponse à sa demande, elle me sèvre de tout bonheur. Elle est autant à moi qu'à vous et prétend être ma femme. Elle porte mon nom et ne remplit aucun des devoirs que les lois divines et humaines lui imposent. Elle ment ainsi aux hommes et à Dieu. Elle m'excède de course et me lasse pour que je la laisse seule. Je lui déplais, elle me hait et met tout son art à rester jeune fille. Elle me rend fou par les privations qu'elle me cause, car tout se porte alors à ma pauvre tête. Elle me tue à petit feu et se croit une sainte, sa communie tous les mois. » La comtesse pleurait en ce moment à chaudes larmes, humiliée par l'abaissement de cet homme auquel elle disait pour toute réponse « Monsieur, monsieur, monsieur !» Quoique les paroles du comte m'eussent fait rougir pour lui comme pour Henriette, elles me remuèrent violemment le cœur, car elles répondaient aux sentiments de chasteté, de délicatesse, qui sont pour ainsi dire l'étoffe des premières amours. « Elle est vierge à mes dépens !» disait le comte. À ce mot, la comtesse s'écria « Monsieur !»« Qu'est-ce que c'est » dit-il. « Que votre monsieur impérieux, ne suis-je pas le maître? Faut-il enfin vous l'apprendre ?» Il s'avança sur elle en lui présentant sa tête de loup blanc devenue hideuse, car ses yeux jaunes eurent une expression qui le fit ressembler à une bête affamée sortant d'un bois. Henriette se coula de son fauteuil à terre pour recevoir le coup, qui n'arriva pas. Elle s'était étendue sur le parquet en perdant connaissance, toute brisée. Le comte fut comme un meurtrier qui sent rejaillir à son visage le sang de sa victime. Il resta tout hébété. Je pris la pauvre femme dans mes bras. Le comte me la laissa prendre, comme s'il se fût trouvé indigne de la porter. Mais il alla devant moi pour m'ouvrir la porte de la chambre contiguë au salon, chambre sacrée où je n'étais jamais entrée. Je mis la comtesse debout et la tins un moment dans un bras, en passant l'autre autour de sa taille, pendant que M. de Mortsauf ôtait la fausse couverture, l'édredon, l'appareil du lit. Puis nous la soulevâmes et l'étendîmes, tout habillée. En revenant à elle, Henriette nous pria par un geste de détacher sa ceinture. M. de Mortsauf trouva des ciseaux et coupa tout. Je lui fis respirer des sels, elle ouvrit les yeux. Le comte s'en alla, plus honteux que chagrin. 2 heures se passèrent en un silence profond. Henriette avait sa main dans la mienne et me la pressait sans pouvoir parler. De temps en temps, elle levait les yeux pour me dire par un regard qu'elle voulait demeurer calme et sans bruit. Puis il y eut un moment de trêve où elle se releva sur son coude et me dit à l'oreille « Le malheureux, Si vous saviez. Elle se remit la tête sur l'oreiller. Le souvenir de ses peines passées, joint à ses douleurs actuelles, lui rendit des convulsions nerveuses que je n'avais calmées que par le magnétisme de l'amour, effet qui m'était encore inconnu, mais dont j'usais par instinct. Je la maintins avec une force tendrement adoucie, et pendant cette dernière crise, elle me jeta des regards qui me firent pleurer. Quand ses mouvements nerveux cessèrent, je rétablis ses cheveux en désordre, que je maniais pour la seule et unique fois de ma vie. Puis je repris encore sa main et contemplai longtemps cette chambre à la fois brune et grise, ce lit simple à rideaux de perse, cette table couverte d'une toilette parée à la mode ancienne, ce canapé mesquin à matelas piqué. Que de poésie dans ce lieu! Quel abandon de luxe pour sa personne! Son luxe était la plus exquise propreté. Notre cellule de religieuse mariée, pleine de résignation sainte, où le seul ornement était le crucifix de son lit, au-dessus duquel se voyait le portrait de sa tante. Puis, de chaque côté du bénitier, ses deux enfants dessinés par elle au crayon, et leurs cheveux du temps où ils étaient petits. Quelle retraite pour une femme, de qui l'apparition dans le grand monde eût fait pâlir les plus belles. Tel était le boudoir où pleurait toujours la fille d'une illustre famille, inondée en ce moment d'amertume et se refusant à l'amour qui l'aurait consolée. Malheur secret, irréparable. Et des larmes chez la victime pour le bourreau, et des larmes chez le bourreau pour la victime. Quand les enfants et la femme de chambre entrèrent, je sortis. Le comte m'attendait. Il m'admettait déjà comme un pouvoir médiateur entre sa femme et lui. Et il me saisit par les mains en me criant « Restez, restez, Félix !» Malheureusement, lui dis-je, monsieur de Chessel a du monde. Il ne serait pas convenable que ses convives cherchassent les motifs de mon absence. Mais après le dîner, je reviendrai. Il sortit avec moi, me reconduisit jusqu'à la porte d'en bas sans me dire un mot. Puis il m'accompagna jusqu'à Frapesle, sans savoir ce qu'il faisait. Enfin là, je lui dis « Au nom du ciel, monsieur le comte, laissez-lui diriger votre maison. Si cela peut lui plaire, et ne la tourmentez plus. » « Je n'ai pas longtemps à vivre, » me dit-il d'un air sérieux. « Elle ne souffrira pas longtemps par moi. Je sens que ma tête éclate. » Et il me quitta dans un accès d'égoïsme involontaire. Après le dîner, je revins savoir des nouvelles de Madame de Mortsauf, que je trouvais déjà mieux. Si telle était pour elle les joies du mariage, si de semblables scènes se renouvelaient souvent, comment pouvait-elle vivre? Quel lent assassinat impuni! Pendant cette soirée, je compris par quelles tortures inouïes le comte énervait sa femme. Devant quel tribunal apporter de tels litiges? Ces réflexions m'hébétaient, je ne pus rien dire à Henriette, mais je passai la nuit à lui écrire. Des 3 ou 4 lettres que je fis, il m'est resté ce commencement dont je ne fus pas content, mais s'il me parut ne rien exprimer ou trop parler de moi, quand je ne devais m'occuper que d'elle, il vous dira dans quel état était mon âme. À Madame de Mortsauf. Combien de choses n'avais-je pas à vous dire en arrivant, auxquelles je pensais pendant le chemin et que j'oublie en vous voyant. Oui, dès que je vous vois, chère Henriette, je ne trouve plus mes paroles en harmonie avec les reflets de votre âme qui grandissent votre beauté. Puis j'éprouve près de vous un bonheur tellement infini que le sentiment actuel efface les sentiments de la vie antérieure. Chaque fois, je nais à une vie plus étendue et suis comme le voyageur qui, en montant quelques grands rochers, découvre à chaque pas un nouvel horizon. À chaque nouvelle conversation, n'ajoutais-je pas à mes immenses trésors un nouveau trésor? Là, je crois, est le secret des longs, des inépuisables attachements. Je ne puis donc vous parler de vous que loin de vous. En votre présence, je suis trop ébloui pour voir, trop heureux pour interroger mon bonheur, trop plein de vous pour être moi, trop éloquent par vous pour parler, trop ardent à saisir le moment présent pour me souvenir du passé. Sachez bien cette constante ivresse pour m'en pardonner les erreurs. Près de vous, je ne puis que sentir. Néanmoins, j'oserais vous dire, ma chère Henriette, que jamais, dans les nombreuses joies que vous avez faites, je n'ai ressenti de félicité semblable aux délices qui remplirent mon âme hier, quand, après cette tempête horrible où vous avez lutté contre le mal avec un courage surhumain, vous êtes revenu à moi seul, au milieu du demi-jour de votre chambre, où cette malheureuse scène m'a conduit. Moi seul ai su de quelle lueur peut briller une femme quand elle arrive des portes de la mort aux portes de la vie et que l'aurore d'une renaissance vient nuancer son front. Combien votre voix était harmonieuse, combien les mots, même les vôtres, me semblaient petits alors que dans le son de votre voix adorée reparaissaient les ressentiments vagues d'une douleur passée mêlée aux consolations divines par lesquelles vous m'avez enfin rassurée en me donnant ainsi vos premières pensées. Je vous connaissais brillant de toutes les splendeurs humaines, mais hier, j'ai entrevu une nouvelle Henriette qui serait à moi si Dieu le voulait. Hier, j'ai entrevu je ne sais quel être dégagé des entraves corporelles qui nous empêchent de secouer les feux de l'âme. Tu étais bien belle dans ton abattement, bien majestueuse dans ta faiblesse. Hier, j'ai trouvé quelque chose de plus beau que ta beauté, quelque chose de plus doux que ta voix, des lumières plus étincelantes que ne l'est la lumière de tes yeux, des parfums pour lesquels il n'est point de mots. Hier, ton âme a été visible et palpable. Ah, j'ai bien souffert de n'avoir pu t'ouvrir mon cœur pour t'y faire revivre. Enfin, hier, j'ai quitté la terreur respectueuse que tu m'inspires. Cette défaillance ne nous avait-elle pas rapprochés? Alors j'ai su ce que c'était que respirer en respirant avec toi, quand la crise te permit d'aspirer notre air. Combien de prières élevées au ciel en un moment? Si je n'ai pas expiré en traversant les espaces que j'ai franchis pour aller demander à Dieu de te laisser encore à moi, l'on ne meurt ni de joie ni de douleur. Ce moment m'a laissé des souvenirs ensevelis dans mon âme et qui ne reparaîtront jamais à sa surface sans que mes yeux se mouillent de pleurs. Chaque joie en augmentera le sillon, chaque douleur les fera plus profonds. Oui, les craintes dont mon âme fut agitée hier seront un terme de comparaison pour toutes mes douleurs à venir, comme les joies que tu m'as prodiguées, chère éternelle pensée de ma vie. Domineront toutes les joies que la main de Dieu daignera m'épancher. Tu m'as fait comprendre l'amour divin, cet amour sûr qui, plein de sa force et de sa durée, ne connaît ni soupçon ni jalousie. Une mélancolie profonde me rongeait l'âme. Le spectacle de cette vie intérieure était navrant pour un cœur jeune et neuf aux émotions sociales. Trouver cet abîme à l'entrée du monde, un abîme sans fond, une mère morte. Cet horrible concert d'infortune me suggéra des pensées infinies et j'eus à mon premier pas dans la vie sociale une immense mesure à laquelle les autres scènes rapportées ne pouvaient plus être que petites. Ma tristesse fit juger à monsieur et madame de Chessel que mes amours étaient malheureuses et j'eus le bonheur de ne nuire en rien à ma grande Henriette par ma passion. Le lendemain, quand j'entrais dans le salon, elle y était seule. Elle me contempla pendant un instant en me tendant la main et me dit « L'ami sera donc toujours trop tendre ?» Ses yeux devinrent humides. Elle se leva, puis me dit avec un ton de supplication désespérée « Ne m'écrivez plus ainsi. » Monsieur de Mortsauf était prévenant. La comtesse avait repris son courage et son front serein, mais son teint trahissait ses souffrances de la veille, qui étaient calmées sans être éteintes. Elle me dit le soir, en nous promenant dans les feuilles sèches de l'automne qui résonnaient sous nos pas, « La douleur est infinie, la joie des limites. » Mot qui révélait ses souffrances par la comparaison qu'elle en faisait avec ses félicités fugitives. Ne médisez pas de la vie, lui dis-je. Vous ignorez l'amour, et il a des voluptés qui rayonnent jusque dans les cieux. Taisez-vous, dit-elle. Je n'en veux rien connaître. Le Groenlandais mourrait en Italie. Je suis calme et heureuse près de vous. Je puis vous dire toutes mes pensées. Ne détruisez pas ma confiance. Pourquoi n'auriez-vous pas la vertu du prêtre et le charme de l'homme libre? Vous feriez avaler des coupes de ciguë, lui dis-je en lui mettant la main sur mon cœur qui battait à coups pressés. Encore ? S'écria-t-elle en retirant sa main, comme si elle eût ressenti quelque vive douleur. Voulez-vous donc m'ôter le triste plaisir de faire étancher le sang de mes blessures par une main amie? N'ajoutez pas à mes souffrances, vous ne les savez pas toutes. Les plus secrètes sont les plus difficiles à dévorer. Si vous étiez femme, vous comprendriez en quelle mélancolie mêlée de dégoût tombe une âme fière, alors qu'elle se voit l'objet d'attentions qui ne réparent rien et avec lesquelles on croit tout réparer. Pendant quelques jours, je vais être courtisée. On va vouloir se faire pardonner le tort que l'on s'est donné. Je pourrais alors obtenir un assentiment aux volontés les plus déraisonnables. Je suis humiliée par cet abaissement, par ces caresses qui cessent le jour où l'on croit que j'ai tout oublié, ne devoir la bonne grâce de son maître qu'à ses fautes. À ses crimes, dis-je vivement. N'est-ce pas une affreuse condition d'existence ? Dit-elle en me jetant un triste sourire. Puis je ne sais pas user de ce pouvoir passager. En ce moment, je ressemble aux chevaliers qui ne portaient pas de coups à leur adversaire tombé. Voir à terre celui que nous devons honorer, le relever pour en recevoir de nouveaux coups, souffrir de sa chute plus qu'il n'en souffre lui-même, et se trouver déshonoré si l'on profite d'une passagère influence, même dans un but d'utilité, dépenser sa force, épuiser les trésors de l'âme en ses luttes sans noblesse, ne régner qu'au moment où l'on reçoit de mortelles blessures. Mieux vaut la mort. Si je n'avais pas d'enfant, je me laisserais aller au courant de cette vie. Mais sans mon courage inconnu, que deviendrait-il? Je dois vivre pour eux, quelque douloureuse que soit la vie. Vous me parlez d'amour? Oh, mon ami, songez donc dans quel enfer je tomberais si je donnais à cet être sans pitié, comme le sont tous les gens faibles, le droit de me mépriser. Je ne supporterai pas un soupçon. La pureté de ma conduite fait ma force. La vertu, cher enfant, a des eaux saintes où l'on se retrempe et d'où l'on sort renouvelé à l'amour de Dieu. Écoutez, chère Henriette, je n'ai plus qu'une semaine à demeurer ici. Je veux que... Oh, vous nous quittez ? Dit-elle en m'interrompant. Mais ne dois-je pas savoir ce que mon père décidera de moi ? Voici bientôt 3 mois. Oh, je n'ai pas compté les jours, me répondit-elle avec l'abandon de la femme émue. Elle se recueillit et me dit « Marchons, allons à Frapelle. » Elle appela le comte, ses enfants, demanda son châle, puis quand tout fut prêt, elle, si lente, si calme, eut une activité de parisienne, et nous partîmes en troupe pour aller à Frapelle, y faire une visite que la comtesse ne devait pas. Elle s'efforça de parler à madame de Chessel, qui heureusement fut très prolixe dans ses réponses. Le comte et monsieur de Chessel s'entretinrent de leurs affaires. J'avais peur que monsieur de Mortsauf ne vantât sa voiture et son attelage, mais il fut d'un goût parfait. Son voisin le questionna sur les travaux qu'il entreprenait à la cassine et à la rétorière. En entendant la demande, je regardais le comte, en croyant qu'il s'abstiendrait d'un sujet de conversation si fatal en souvenir, si cruellement amer pour lui. Mais il prouva combien il était urgent d'améliorer l'état de l'agriculture dans le canton, de bâtir de belles fermes dont les locaux fussent sains et salubres. Enfin, il s'attribua glorieusement les idées de sa femme. Je contemplais la comtesse en rougissant. Ce manque de délicatesse chez un homme qui, dans certaines occasions, en montrait tant, cet oubli de la scène mortelle, cette adoption des idées contre lesquelles il s'était si violemment élevé, cette croyance en soi me pétrifiait. Quand M. de Chessel lui dit « Croyez-vous pouvoir retrouver vos dépenses ?»« Au-delà » fit-il avec un geste affirmatif. De semblables crises ne s'expliquaient que par le mot « démence ». Henriette, la céleste créature, était radieuse. Le comte ne paraissait-il pas homme de sens, bon administrateur, excellent agronome ? Elle caressait avec ravissement les cheveux de Jacques, heureuse pour elle, heureuse pour son fils. Quel comique horrible ! Quel drame railleur ! J'en fus épouvantée. Plus tard, quand le rideau de la scène sociale se releva pour moi, combien de morceaux n'avais-je pas vus ? Moins les éclairs de loyauté, moins la religion de celui-ci. Quelle singulière et mordante puissance est celle qui perpétuellement jette au fou un ange, à l'homme d'amour sincère et poétique, une femme mauvaise, au petit, la grande, à ce magot, une belle et sublime créature, à la noble Juana de Mancini, le capitaine Diard, de qui vous avez su l'histoire à Bordeaux, à Madame de Beauséant, d'Adjuda, à Madame d'Aiglemont, son mari, au marquis d'Espard, sa femme. J'ai cherché longtemps le sens de cette énigme, je vous l'avoue. J'ai fouillé bien des mystères, j'ai découvert la raison de plusieurs lois naturelles et le sens de quelques hiéroglyphes divins. De celui-ci, je ne sais rien. Je l'étudie toujours comme une figure du casse-tête indien dont les brames se sont réservées la construction symbolique. Ici, le génie du mal est trop visiblement le maître, et je n'ose accuser Dieu. Malheur sans remède, qui donc s'amuse à vous tisser ? Henriette et son philosophe inconnu auraient-ils donc raison ? Leur mysticisme contiendrait-il le sens général de l'humanité ? Les derniers jours que je passais dans ce pays furent ceux de l'automne effeuillé, jours obscurcis de nuages qui parfois cachèrent le ciel de la Touraine, toujours si pur et si chaud dans cette belle saison. La veille de mon départ, Madame de Mortsauf m'amena sur la terrasse avant le dîner. « Mon cher Félix, me dit-elle, après un tour fait en silence sous les arbres dépouillés, vous allez entrer dans le monde et je vais vous y accompagner en pensée. Ceux qui ont beaucoup souffert ont beaucoup vécu. Ne croyez pas que les âmes solitaires ne sachent rien de ce monde. Elles le jugent. Si je dois vivre par mon ami, je ne veux être mal à l'aise ni dans son cœur, ni dans sa conscience. Au fort du combat, il est bien difficile de se souvenir de toutes les règles. Permettez-moi de vous donner quelques enseignements de mère à fils. Le jour de votre départ, je vous remettrai, cher enfant, une longue lettre où vous trouverez mes pensées de femme sur le monde, sur les hommes, sur la manière d'aborder les difficultés dans ce grand remuement d'intérêt. Promettez-moi de ne la lire qu'à Paris. La prière est l'expression d'une de ces fantaisies de sentiments qui sont notre secret à nos autres femmes. Je ne crois pas qu'il soit impossible de la comprendre, mais peut-être serions-nous chagrines de la savoir comprise. Laissez-moi ces petits sentiers où la femme aime à se promener seule. Je vous le promets, lui dis-je en lui baisant les mains. Oh, j'ai encore un serment à vous demander, mais engagez-vous d'avance à le souscrire. Oh oui, lui dis-je en croyant qu'il allait être question de fidélité. Il ne s'agit pas de moi, reprit-elle en souriant avec amertume. Félix, ne jouez jamais dans quelque salon que ce puisse être. Je n'accepte celui de personne. Je ne jouerai jamais, lui répondis-je. Bien, dit-elle, je vous ai trouvé un meilleur usage du temps que vous dissiperiez au jeu. Vous verrez que là où les autres doivent perdre tôt ou tard, vous gagnerez toujours. Comment ? La lettre vous le dira, répondit-elle d'un air enjoué, qui ôtait à ses recommandations le caractère sérieux dont sont accompagnées celles des grands-parents. La comtesse me parla pendant une heure environ et me prouva la profondeur de son affection en me révélant avec quel soin elle m'avait étudiée pendant ces 3 derniers mois. Elle entra dans les derniers replis de mon cœur en tâchant d'y appliquer le sien. Son accent était varié et convaincant. Ses paroles tombaient d'une lèvre maternelle et montraient autant par le ton que par la substance combien de liens nous attachaient déjà l'un à l'autre. « Si vous saviez, » dit-elle en finissant, « avec quelles anxiétés je vous suivrai dans votre route, quelle joie si vous allez droit, quels pleurs si vous allez heurter à des angles. Croyez-moi, mon affection est sans égale. Elle est à la fois involontaire et choisie. Oh, je voudrais vous voir heureux, puissant, considéré, vous qui serez pour moi comme un rêve animé. » Elle me fit pleurer. Elle était à la fois douce et terrible. Son sentiment se mettait trop audacieusement à découvert. Il était trop pur pour permettre le moindre espoir au jeune homme altéré de plaisir. En retour de ma chair, laissée en lambeaux dans son cœur, elle me versait les lueurs incessantes et incorruptibles de ce divin amour qui ne satisfaisait que l'âme. Elle montait à des hauteurs où les ailes diaprées de l'amour qui me fit dévorer ses épaules ne pouvaient me porter. Pour arriver près d'elle, un homme devait avoir conquis les ailes blanches du séraphin. « En toute chose, lui dis-je, je penserai, que dirait mon Henriette ?»« Bien, je veux être l'étoile et le sanctuaire, » dit-elle en faisant allusion aux rêves de mon enfance et cherchant à m'en offrir la réalisation pour tromper mes désirs. « Vous serez ma religion et ma lumière, vous serez tout, » m'écriai-je. « Non, » répondit-elle, « je ne puis être la source de vos plaisirs. » Elle soupira et me jeta le sourire des peines secrètes, ce sourire de l'esclave un moment révolté. Dès ce jour, elle fut non pas la bien-aimée, mais la plus aimée. Elle ne fut pas dans mon cœur comme une femme qui veut une place, qui s'y grave par le dévouement ou par l'excès du plaisir. Non, elle eut tout le cœur et fut quelque chose de nécessaire au jeu des muscles. Elle devint ce qu'était la Béatrix du poète florentin, la Laure sans tache du poète vénitien, la mère des grandes pensées, la cause inconnue des résolutions qui sauvent, le soutien de l'avenir, la lumière qui brille dans l'obscurité, comme le lys dans les feuillages sombres. Oui, elle dicta ses hautes déterminations, qui coupe la part au feu, qui restitue la chose en péril. Elle m'a donné cette constance à la Coligny pour vaincre les vainqueurs, pour renaître de la défaite, pour lasser les plus forts lutteurs. Le lendemain, après avoir déjeuné à Frapelle et fait mes adieux à mes hôtes, si complaisant à l'égoïsme de mon amour, je me rendis à Clochegourde. Monsieur et Madame de Mortsauf avaient projeté de me reconduire à Tours, d'où je devais partir dans la nuit pour Paris. Pendant ce chemin, la comtesse fut affectueusement muette. Elle prétendit d'abord avoir la migraine, puis elle rougit de ce mensonge et le pallia soudain en disant qu'elle ne me voyait point partir sans regret. Le comte m'invita à venir chez lui quand, en l'absence des Chessel, j'aurais l'envie de voir la vallée de l'Indre. Nous nous séparâmes héroïquement, sans larmes apparentes. Mais, comme quelques enfants maladifs, Jacques eut un mouvement de sensibilité qui lui fit répandre quelques larmes, tandis que Madeleine, déjà femme, serrait la main de sa mère. « Cher petit, » dit la comtesse en baisant Jacques avec passion. Quand je me trouvai seule à Tours, il me prit, après le dîner, une de ces rages inexpliquées que l'on éprouve qu'au jeune âge. Je louai un cheval et franchis en 5 quarts d'heure la distance entre Tours et Pont-de-Ruan. Là, honteux de montrer ma folie, je courus à pied dans le chemin et j'arrivai comme un espion à pas de loup sous la terrasse. La comtesse n'y était pas. J'imaginais qu'elle souffrait. J'avais gardé la clé de la petite porte. J'entrais. Elle descendait en ce moment le perron avec ses deux enfants pour venir respirer, triste et lente, la douce mélancolie empreinte sur ce paysage au coucher du soleil. « Ma mère, voilà Félix !» dit Madeleine. « Oui, moi !» lui dis-je à l'oreille. « Je me suis demandé pourquoi j'étais à Tours quand il m'était encore facile de vous voir. Pourquoi ne pas accomplir un désir que dans 8 jours je ne pourrai plus réaliser ?»« Il ne vous quitte pas, ma mère !» cria Jacques en sautant à plusieurs reprises. « Tais-toi donc !» dit Madeleine. « Tu veux attirer ici le général ?» « Ce n'est pas sage, » reprit-elle. « Quelle folie !» Cette consonance dite dans les larmes par sa voix, quel paiement de ce qu'on devrait appeler les calculs usuraires de l'amour. « J'avais oublié de vous rendre cette clé, » lui dis-je en souriant. « Vous ne reviendrez donc plus, » dit-elle. « Est-ce que nous nous quittons ?» demandai-je en lui jetant un regard qui lui fit abaisser ses paupières. Pour voiler sa muette réponse.